Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Dans chaque épisode, j'essaye de vous proposer des sujets différents à explorer. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une conversation. C'est un épisode très spécial pour moi, un peu plus personnel. Une conversation émouvante, comme vous allez l'entendre, puisque mon invité du jour, c'est ma maman.
En voyant ce que tu fais toi, en voyant ce que fait ta sœur, vraiment, voilà, il me semble que c'est... vous avez pris des forces dans des tas de domaines et vous avancez, vous effectivement, on tombe, on chute, mais on se relève et on repart. Et puis, c'est comme ça qu'on se forge et qu'on avance dans la vie, quoi.
Avant de continuer, une information importante. La transcription de cette conversation est disponible gratuitement. Le lien pour y accéder se trouve dans la description de cet épisode. Récemment, une auditrice du podcast m'a écrit pour me demander si je pouvais créer des épisodes où je parle plus vite, un peu moins clairement. L'épisode de cette semaine est parfait pour ça. Vous allez entendre ma mère parler de manière spontanée. C'est un bon défi, tout en sachant que vous pouvez utiliser la transcription pour approfondir votre compréhension. Dans le court extrait que vous venez d'entendre, on parlait de l'importance de laisser ses enfants faire ce qu'ils ont envie de faire, de les laisser se faire leurs propres expériences, pour qu'ils soient heureux et qu'ils s'épanouissent dans la vie. Aujourd'hui, on va donc parler de famille, des liens qui peuvent exister entre un parent et son enfant. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille très soudée. Ma famille est soudée, ça veut dire qu'on a un lien étroit. Il existe un lien solide entre nous. Dans cet épisode, la question qu'on va se poser, c'est la suivante. Comment se construisent de bonnes relations familiales? Avec ma mère, on a parlé de son enfance, de comment c'était pour elle de grandir en étant enfant unique, de sa vocation d'enseignante et des valeurs qu'elle a voulu transmettre à ma sœur et à moi. Être parent, c'est une leçon d'humilité. C'est faire comme on peut en essayant de faire le mieux possible. Pour commencer, je lui ai demandé de se présenter en quelques mots. Mais si vous êtes abonné à ma newsletter, c'est peut-être pas la première fois que vous entendez sa voix. Ma mère s'appelle Sylvie, et dans la vie, elle est professeure des écoles. Autrement dit, elle est enseignante dans une école primaire. Au moment où on enregistre cette conversation, c'est l'été en France. C'est le moment des grandes vacances pour les professeurs et leurs élèves. C'est une période de repos, mais pas seulement. Quand on est prof, même quand on est en vacances, le cerveau continue de travailler. Il y a plein de choses à faire pour anticiper la rentrée de septembre. Cette conversation, on l'a enregistrée en plein air. On était assises sur la terrasse de notre maison. C'est pour ça que, de temps en temps, dans le fond, vous allez entendre le bruit des oiseaux. Ma mère vit dans un lotissement. Un lotissement, ça désigne un ensemble d'habitations. Pour vous aider à visualiser un peu, vous pouvez imaginer une rue avec, de chaque côté, des maisons entourées de jardins. Elle nous décrit le paysage, ce qu'elle voit depuis sa terrasse, et elle nous parle aussi des bruits qu'on peut entendre quand on vit dans un lotissement.
On s'est installé sur la terrasse, au milieu de la verdure. J'ai la chance d'habiter à la campagne, tout en étant très très proche de la ville, avec un grand jardin, donc j'en profite un maximum. Donc à l'heure actuelle, le paysage devant mes yeux, c'est mes arbres, les arbres de mon terrain, et puis de la verdure, beaucoup de verdure. Et on entend les petits oiseaux, on entend aussi le voisinage, mais c'est normal. Et on est dans un petit lotissement. Je suis à la campagne, mais quand même dans un lotissement, donc entouré de maisons, mais c'est quand même relativement calme, voire même très calme.
En deux mots, ce qui caractérise cet endroit, c'est donc la verdure et le calme. Et vous, si je vous demandais de décrire l'environnement dans lequel vous vivez, quels mots vous utiliseriez pour décrire votre maison, votre appartement, votre quartier? On a emménagé dans ce quartier quand j'étais adolescente. Il me semble que j'étais au collège à cette époque-là. Cette maison, mes parents l'ont construite avec l'aide de la famille. Ce qui est drôle, dans la rencontre de mes parents, c'est que mon père vient d'une famille nombreuse, une famille de 11 enfants, alors que ma mère est fille unique. On dit bien que les opposés s'attirent, après tout. Elle n'a pas toujours vécu dans la maison où elle vit aujourd'hui. Elle a grandi dans un autre lotissement, dans une autre ville du Pays Basque. Elle n'avait pas de frères et sœurs, et pourtant, elle n'a pas vraiment eu le sentiment de grandir comme un enfant unique.
Disons que oui, effectivement, je suis fille unique, mais j'ai pas l'impression d'avoir été élevée comme une fille unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi qui suis au contact d'enfants, je m'aperçois que l'enfant unique d'aujourd'hui est un peu l'enfant roi, l'enfant gâté. Moi, j'ai pas cette impression, moi, de mon enfance. Même si j'avais pas de frères et sœurs, j'ai été élevée, comme une petite fille classique, pas forcément plus gâtée que les autres, pas forcément plus chouchoutée que les autres. Je jouais beaucoup, beaucoup à l'extérieur. C'est ça qui était important, parce qu'à cette époque-là, c'est vrai qu'on jouait beaucoup. Je n'habitais pas ici, mais dans une autre maison qui est sur Anglette, où il y avait beaucoup d'enfants de mon âge, donc du coup, on passait beaucoup de journées de vacances, justement, à l'extérieur, à jouer au ballon, à faire du vélo, à faire différentes petites choses avec les voisins, mais du coup, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas été élevée dans un sens de vraiment enfant unique. Après, ce qui m'a manqué dans le côté enfant unique, c'est le côté de ne pas avoir, quelqu'un à qui se confier. On peut se confier à son frère, à sa sœur, je pense, mais des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à ses parents, qu'on ne peut pas dire à ses amis, et c'est ce côté-là qui m'a manqué. Puis après, dans ma vie d'adolescente, ça a été relativement... j'en ai pas souffert. Maintenant, c'est aussi un peu compliqué maintenant aussi, dans le sens où mes parents, j'ai la chance d'avoir des parents encore en vie, qui sont âgés, et en fait, qui ne peuvent compter que sur moi, et moi, je ne peux compter que sur moi pour pouvoir effectivement m'en occuper, subvenir à différentes choses. Par chance, tout va bien pour l'instant, même s'ils sont très âgés, mais c'est ce côté-là, quoi, en fait, qui m'a manqué. J'ai pas souffert du tout de ce côté enfant unique, parce qu'en fait, j'avais beaucoup d'amis, même au collège, au lycée, j'avais des amis, je sortais, je faisais des choses, mais il m'a manqué, ce côté me confier à quelqu'un, pouvoir dire des choses qu'on ne dira pas forcément à sa mère ou à son père.
Dans le quartier de son enfance, elle a grandi entourée d'enfants de son âge. Ça me fait réfléchir à la possibilité d'une famille qu'on choisit, aux autres formes de liens qui existent. Moi, j'ai la chance d'avoir une petite sœur, mais au-delà des liens du sang, sur notre chemin, on peut aussi rencontrer des frères et des sœurs de cœur. J'ai parfois l'impression que être enfant unique, c'est quelque chose qu'on associe à la solitude ou à l'ennui. Ma mère, de son côté, elle l'a pas vécu de cette manière-là. Aujourd'hui, elle se décrit comme quelqu'un de casanier. Autrement dit, elle aime rester chez elle, à profiter de son jardin.
Après, moi je n'étais pas, j'étais pas trop solitaire, mais après je suis quand même quelqu'un, et même encore aujourd'hui, qui aime bien lire, rester un petit peu dans ma petite bulle. Alors effectivement, on pourrait dire, moi à l'adolescence, que je me suis mise un petit peu dans une petite bulle, et j'ai vécu dans ma petite bulle tout en ayant des amis, en bougeant, en sortant, mais je passais énormément de temps dans ma chambre, à lire, à écouter de la musique. Voilà, je suis quelqu'un d'assez, voilà, qu'on dirait, entre guillemets, casanière. J'aime vivre, voilà, même actuellement, c'est pareil. J'aime bien rester chez moi. Voilà, je m'allonge sur ma chaise longue, je lis, j'écoute les bruits des oiseaux et le temps passe et je ne m'ennuie pas. Enfin, je rêve dans ma tête, je fais des histoires dans ma tête et puis voilà, j'avance, je fais comme ça, quoi.
Grâce à cette conversation, j'ai repensé aux idées, à la vision des choses que mes parents m'ont transmises. Ce qui m'a toujours marqué chez ma mère, c'est sa conviction que c'est hyper important de laisser ses enfants voler de leurs propres ailes. Voler de ses propres ailes, ça signifie être indépendant. Quand je lui ai annoncé que je voulais déménager à Taïwan il y a quelques années, bien sûr, elle était un peu inquiète au départ. Mais comme elle le dit bien, ça fait partie des expériences qui m'ont forgée, qui ont formé la personne que je suis et qui m'ont aidée à avancer dans la vie.
Alors effectivement, quand tu racontes l'idée que tu es partie, effectivement, au début, ça nous a, autant papa que moi, inquiétés. Après, je pense que moi, effectivement, j'étais plus dans cette optique, voilà, de laisser faire, tout en donnant des conseils, bien sûr, tout en essayant de cadrer des choses, et puis qui fait que. Mais je pense qu'effectivement, un enfant, moi, pour moi, c'est ça. On le fait pas pour l'attacher. Alors l'anecdote, justement, si on revient à papa, c'était, on habite dans une maison, il y a un escalier. Souvent, je répétais, tu ne voudrais quand même pas qu'on les attache au pied de l'escalier, ces enfants. Il faut qu'elles volent de leurs propres ailes et qu'elles fassent des choses. Voilà. Après, je pense qu'il était finalement, lui aussi, avait bien compris. Et vu que tout s'est très bien passé, il a été très content et très heureux de tout ça. Mais c'est vrai que moi, franchement, je pense que les enfants, voilà, il faut leur donner une éducation, il faut les lancer sur un chemin. Mais ensuite, je pense que c'est à eux de faire leurs propres expériences. Bien sûr, on est là pour les guider, pour leur expliquer, pour donner peut-être quelques conseils, mais après, effectivement, voler, et puis c'est vraiment très enrichissant. Je pense que c'est quand tu es jeune que tu peux faire des tas d'expériences. C'est pas quand après tu es installé dans la vie, que tu as une famille, peut-être, un travail, une maison, que tu vas tout quitter, tout lâcher, voilà. Après, voilà, c'est quelque chose que peut-être moi je n'aurais pas fait de par mon caractère. Peut-être, mais voilà, moi je suis très heureuse et j'ai l'impression que voilà, j'ai fait deux filles qui justement aiment bien se lancer des défis, partir, faire des choses et jusqu'à présent, voilà. Et puis je pense que c'est toutes ces expériences-là ne font que forger le caractère des gens et aident les gens à avancer. Donc c'est sûr que oui. Et après, je pense que voilà, si on revient encore à l'éducation d'autrefois, mes parents, voilà, moi par exemple, eh ben, j'habite pas très loin de mes parents. Moi, personnellement, je sais déjà dans ma tête que je ne veux, voilà, je sais que je peux compter sur mes filles quand je serai âgée, mais je ne veux pas, dans mon esprit, c'est plutôt, je vais essayer de me débrouiller le plus tard possible, toute seule, à faire un maximum de choses, pas forcément avoir mes enfants au pied du jardin ou à un kilomètre de chez moi. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, voilà, je pense que ma vie, je la fais pas, je me dis pas, oh là là, mes enfants doivent rester là pour qu'ils s'occupent de moi quand je serai âgée. Pas du tout. Moi, je vais essayer, j'espère, vivre très longtemps et dans de bonnes conditions pour pouvoir justement me débrouiller toute seule. Donc, je pense que les enfants, il faut les laisser faire ce qu'ils ont envie pour qu'ils soient heureux et qu'ils s'épanouissent, quoi, en fait. Finalement, voilà, je le vois tous les jours en voyant ce que tu fais toi, en voyant ce que fait ta sœur. Vraiment, voilà, il me semble que c'est... vous avez pris des forces dans des tas de domaines et vous avancez. Vous, effectivement, on tombe, on chute, mais on se relève et on repart. Et puis, c'est comme ça qu'on se forge et qu'on avance dans la vie, quoi.
Avec ma mère, on a aussi parlé de son métier. Cette vocation, elle sait pas trop d'où elle vient. Ce dont elle est sûre, c'est qu'elle a toujours voulu être maîtresse d'école.
Mais écoute, je crois que je suis née avec, hein, parce que, en fait, je crois pas que c'est d'un coup j'ai pas eu cette vocation. C'est derrière depuis toute petite, voilà, j'ai envie de faire ce métier. Voilà, je mettais mes poupées assises sur le lit et je jouais la maîtresse, j'imitais la maîtresse, je faisais la maîtresse, voilà. C'est quelque chose que je pense que j'ai toujours voulu faire, sans me poser de questions, c'était vraiment le métier que je voulais faire. Donc, comme je te disais l'autre jour, petite anecdote, à l'époque où moi je suis devenue enseignante, en fait, on passait un concours directement après le bac. Donc, j'ai passé ce concours. Comme toujours, il y avait une attente des résultats du concours. Et mes parents m'avaient dit à l'époque, comme on peut encore dire à ses enfants, bon, écoute, si jamais t'as pas le concours, il faut que tu fasses autre chose. Donc, bon, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Bon, alors là, j'ai vraiment pris, je pense, le métier au hasard, sans réfléchir du tout. C'est-à-dire, j'ai dit, bon, je ferais peut-être une formation de secrétariat, pourquoi pas, bon. Et la rentrée scolaire arrive, les résultats du concours tombent un certain jour, alors je dirais, mettons, un lundi soir. Et les cours à l'école, à l'époque s'appelait Pigé, qui n'existe plus maintenant, qui formait des secrétaires, a commencé le lundi matin. Donc, je suis allée faire la première matinée. Après première après-midi, on démarre le métier de secrétaire avec un texte à taper à la machine à écrire. Alors, ça aurait été aujourd'hui, j'aurais peut-être apprécié le métier de secrétaire, vu que maintenant, il y a l'informatique, il y a tout ça, et c'est plus agréable. Là, c'était une machine à écrire, donc tac, 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 tout l'après-midi. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible. Il faut que j'ai ce concours, pourvu que j'ai ce concours. Et donc, je me vois très bien rentrer chez moi, dire à mon papa, j'espère que j'ai le concours, parce que je crois que je ne repars pas, c'est pas possible, je peux pas faire ce métier, c'est pas possible. Mais par chance, j'ai appelé, et j'ai été prise au concours, et donc, je suis partie... Voilà, super contente. Le lendemain matin, j'ai appelé l'école Pigé. J'ai dit, bon, écoutez, je ne reviens pas. J'ai eu mon concours, donc je ne reviens pas. Bon, très bien. Et voilà, et je suis partie donc, pour mes 3 ans d'études. Alors, effectivement, quand on fait ses études d'enseignant, j'ai fait des stages, j'ai fait des choses qui m'a confortée dans l'idée que c'était ce métier que je voulais faire. Après, comme tout métier, c'est beaucoup de théorie. On se forme sur le tas, sur la pratique. Et franchement, depuis le temps que je suis enseignante, je n'ai jamais douté que c'était ça que je voulais faire. Franchement, c'est j'ai passé des années tous les ans et encore cette année, voilà, je découvre tous les ans des choses et pourtant je suis vraiment presque au bout de ma carrière, mais je vais encore découvrir des choses. Voilà, j'avais eu des petites maternelles l'année dernière, je repars à ma classe de prédilection l'an prochain, qui va être la dernière année de maternelle et le CP que j'ai fait toute ma vie et qui est pour moi la classe la plus gratifiante, enfin que je trouve gratifiante, parce qu'en fait on prend les enfants à zéro et on les amène à l'écriture, à la lecture, aux maths. Et puis les enfants, c'est l'innocence, c'est l'envie, c'est rare, c'est rare. Alors bien sûr, c'est des enfants, donc ils sont pas toujours contents, mais ils ont toujours envie. Alors, je ne dis pas que peut-être, si j'avais été... moi, je veux être professeur des écoles, c'est-à-dire chez les plus jeunes. Alors, pour l'instant, ma classe la plus haute a été CE1. Je pense que je n'aurais pas aimé. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu, mais dans ma nature, les CM1, CM2, c'est une autre relation. Ça commence déjà à être des pré-ados. Et je pense que je n'aurais, par contre, professeur, c'est pas mon truc, quoi. Je n'aurais pas aimé enseigner en collège ou en lycée. Ce que j'aime, c'est les enfants plus jeunes, faire plein de choses avec eux. Donc franchement, d'où me vient cette vocation? Je pense que je l'ai eue depuis le départ, depuis ma naissance, comme je dirais. Mais non, j'exagère, mais de tout temps, quoi. Franchement, c'est quelque chose que j'aime et que j'aime encore et que j'aimerais encore et qui m'a comblée, je pense, professionnellement. Je suis comblée dans ce que je fais.
Beaucoup de vocabulaire intéressant dans cet extrait. Quand elle mentionne le CP, le CE1, le CM1, le CM2, ce sont juste les noms des différentes classes, des différents niveaux à l'école primaire. À un moment, elle dit « pourvu que j'ai ce concours » quand elle évoque le concours pour devenir enseignante. « Pourvu que » on l'utilise pour exprimer un souhait, pour dire « j'espère que je vais l'avoir, ce concours ». Ce que je retiens de ce passage sur sa vocation, c'est qu'après bientôt 40 ans de carrière dans l'enseignement, elle est comblée dans son métier. Elle reste heureuse et satisfaite dans ce qu'elle fait. Pour la petite anecdote, ma sœur et moi, on est allés dans la même école primaire où ma mère travaille encore aujourd'hui. En plus d'être ma maman, elle a donc aussi été ma maîtresse pendant l'année du CP. Un choix et une expérience dont elle garde de bons souvenirs.
Voilà, tout à fait. Alors ça a été un choix de ma part. Beaucoup d'enseignants ne veulent pas avoir leurs enfants dans la classe. Bon, moi, ça a été un choix, je n'ai pas réfléchi. Ça a été un choix plus pratique à la base, au départ. Parce que voilà, on part ensemble, on est à l'école, on n'a pas besoin de courir si on a une réunion à dire « Ah mon Dieu, elle est à la garderie, il faut que j'aille la chercher ». Ça, je l'ai vécu quand vous étiez bébé, quand vous étiez à la crèche, où il fallait respecter des horaires parce qu'il fallait aller vous récupérer. Mais voilà, moi, je ne me suis pas posé de questions quand a été le temps de vous mettre à l'école. Et puis, voilà, dans les petites anecdotes, c'est... alors, c'est pas trop moi. Moi, c'était... Voilà, moi, j'étais à l'école, j'étais la maîtresse. C'était la maîtresse, c'était plus maman, c'était la maîtresse quand vous étiez dans ma classe. Et voilà, moi, ce qui me marquait beaucoup, c'est justement vous, cette faculté que vous aviez autant l'une que l'autre, à couper et à faire une différence. C'est-à-dire que l'école où vous avez été, c'est l'école où je suis toujours. Il y a un petit portail qu'on franchit pour rentrer dans la cour. On franchissait ce petit portail, je devenais maîtresse quand vous étiez dans ma classe. Hein. Bien sûr, quand après vous n'étiez pas dans ma classe, c'était maman toujours, mais l'année où vous avez été dans ma classe, vous franchissiez le portail, je devenais la maîtresse. On refranchissait le portail dans l'autre sens, sur le trottoir, je redevenais maman. Et vous ne m'appeliez plus maîtresse, vous m'appeliez maman. Donc, c'est quelque chose de voilà qui m'a marquée. Autre événement, voilà, je te disais l'autre jour, les grandes vacances avant d'être dans ma classe, beaucoup de gens autour de nous, alors des amis, de la famille, des choses, te répéter sans arrêt, alors tu vas être dans la classe de maman, alors tu vas être dans la classe de maman. Bon, pendant un petit moment, je pense que tu n'as pas répondu, jusqu'au jour où je pense que tu en as eu marre. Et pour toi, je pense que comme moi, je le vivais très bien et je n'avais pas mis une pression sur vous en disant « Attention, vous allez être chez maman, il faut être sage, il faut vous comporter comme des bonnes élèves. » Comme ça s'est fait tout à fait naturellement, je pense que là, à ce moment-là, toi, tu as dû répondre et je te vois bien répondre, je ne sais pas à qui c'était, dire « Ben ouais, alors, je vais être chez maman. » Et alors maman, c'est une maîtresse, voilà, c'est comme ça. Voilà. Et puis, dernière petite anecdote qui était très, très drôle, c'est donc ta sœur, donc tu as dit, qui était dans ma classe. Et en général, le lundi matin, on faisait le quoi de neuf, c'est-à-dire que les élèves venaient dire à la maîtresse ou parler devant tout le monde. Et Laura, donc, vient près de moi et me dit, tu sais, maîtresse, hier avec maman, on a fait un gâteau. Alors là, il y a eu un petit blanc. Je me suis dit 30 secondes, oulala, mon Dieu. Mais bon, après, écoutez, moi, j'ai continué normalement. J'ai dit, ah oui, d'accord, Laura. Et j'ai continué, j'ai abondé dans son sens. Et alors, je ne sais pas si ça se passerait maintenant pareil. Mais à cette époque-là, par exemple, dans la classe, personne, je dis bien personne, n'a relevé et n'est venu voir Laura en lui disant, ah ben bien sûr, elle le sait, c'est ta mère. Personne ne l'a dit. Donc, en fait, je pense que dans la tête des autres élèves, moi, mon attitude face à vous, en fait, quand vous étiez dans ma classe, faisait que vous étiez considéré comme les élèves, vous étiez puni comme les autres, a fait que finalement, personne n'a relevé et n'a dit « Ah ben non, de toute façon, tu le sais déjà, c'est ta mère. Elle le sait, c'est ta mère. » Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc. J'y ai repensé l'autre jour où ça, je me suis dit « Ben finalement, voilà. Est-ce que les choses ont été... » Voilà, je pense que les choses se sont faites naturellement, sans mettre de pression, sans que moi je fasse de différence avec les autres. Et donc je pense que ça, enfin, pour moi perso, ça s'est bien passé. Après vous, je pense que vous, je ne sais pas, enfin, je pense que oui, mais que ça s'est bien passé pour vous aussi. Après, est-ce que vous aviez un caractère qui s'y prêtait? Est-ce que j'avais un caractère aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je n'ai que des bons souvenirs de ce moment-là.
La question qu'on se pose cette semaine, c'est comment se construisent de bonnes relations familiales? Moi, j'ai cette chance d'avoir une famille aimante, une famille bienveillante, des parents qui m'ont toujours soutenue. Je sais que tout le monde n'a pas la même expérience. J'ai la chance d'avoir une maman qui a toujours été là pour moi. Donc, c'est tout à fait naturel de, en retour, d'être présente pour elle. Je sais pas s'il y a un secret pour avoir de bonnes relations de famille, mais je sais que, chez nous, on essaye de faire des choses ensemble, on s'écoute. Je dirais que l'une des clés, c'est la communication.
Après, voilà, nous, on était aussi, voilà, je reviens à l'idée de casanier, on était quand même des gens, je pense, très famille. C'est-à-dire très... on faisait beaucoup de choses ensemble. Hein, voilà, avant ton départ à Taïwan, on a fait notre dernier voyage à Londres ensemble. On est parti tard ensemble en vacances, etc. Voilà, il y a des jeunes ados, ben, il y a longtemps qu'ils partent plus avec leurs parents et tout. Moi, je pense qu'on avait, ce que je retiendrai, moi, plutôt, c'est ça, c'est les valeurs, elles se sont transmises par ce cocon qui fait que, ben, on a vécu et on vit encore, ben, finalement, dans une sorte de, c'est nous, quoi. Et puis, ben, les autres, ils venaient interférer là-dedans, mais je pense que ce cocon-là a fait que on s'est soudés, on a avancé, on vous a donné des, voilà, du respect et des choses. Moi, je reviens toujours à ce respect, parce que voilà, moi, ce qui me frappe, voilà, c'est même toi, quand tu étais à Taïwan, si tu faisais quelque chose, tu nous en informais, tu disais, voilà. Après, comme je te dis, ben, c'est normal, on n'est pas toujours d'accord avec vous, mais bon, il faut accepter d'avancer et de certaines choses et tout. Mais je pense que c'est surtout ça, quoi. Tu vois, et puis ce lien comme ça. Et puis bon, je pense que nous, entre nous, voilà, c'est un lien qui nous unit. Cette façon, voilà, de toujours parler ensemble, de communiquer, d'essayer de d'expliquer les choses, quoi. Enfin, me semble que c'est ça, quoi. Tu vois, je vois pas trop pour l'instant d'autres choses, mais bon. Après, je pense que voilà, je vais pas aller plus loin, mais c'est vrai que je me dis, quand je fais mon analyse, ben, de maman, de vie, de choses, je me dis, bon, finalement, quand je vois ce que vous êtes devenu aujourd'hui, je me dis, bon, je pense que j'ai pas raté quelque chose. Enfin, je me jette peut-être des fleurs, mais je me dis, bon, je pense que j'ai inculqué des bonnes bases qui font qu'aujourd'hui, elles sont solides et elles avancent. Et que quand même, ce que j'ai fait, c'est bien.
Je vous le disais que c'était un épisode émouvant. On arrive à la fin de cette conversation. Ces jours-ci, je réfléchis beaucoup aux relations qui peuvent exister entre un parent et son enfant. Et je me dis que c'est très précieux d'avoir enregistré cette conversation avec ma maman. On peut être surpris de ce qu'on apprend de ses parents si on prend le temps de s'asseoir et d'avoir des conversations plus profondes. Être parent, finalement, c'est faire comme on peut, en essayant de faire le mieux possible.
Quand moi, je n'étais pas maman, je posais un regard sur les autres et je disais, ah, mais non, moi, je ne ferais pas comme ça, je fais ça. Et ensuite, quand tu es maman, bon, ça te change, ça te transforme, etc. Mais du coup, comme je disais, ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, j'ai essayé de faire ben, le mieux que je pouvais, en essayant de faire quelque chose de... Voilà, de donner le meilleur pour essayer de donner ben, toutes les chances de vie et tout. Et je disais, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait comme j'ai pu parce qu'en fait, voilà, c'est facile de juger, c'est facile de dire, ah ben celui-là, ben, regarde-le comment il fait, là dans le magasin, vas-y, ça va pas du tout, punaise, il peut pas se... Non, un enfant, après, il naît, t'as un enfant, t'as beau élever tes enfants, tu vois, ou deux, ben vous êtes totalement différentes. C'est-à-dire, pourtant, vous avez eu la même éducation, on a partagé les mêmes choses, on est très soudés, mais chacune des deux a sa façon d'aborder les choses. Il n'y a pas de manuel pour être parent, voilà, ça ne s'apprend pas. Bon, il y a des choses logiques qui nous paraissent logiques, tu te dis non mais c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Mais en fait, je pense que ça t'apprend un peu d'humilité d'être parent, dans le sens où ben voilà, tu fais comme tu peux, en essayant de faire le mieux possible. Mais bon, si on va pas repleurer comme tout à l'heure, mais on va revenir à la même chose de tout à l'heure, c'est que voilà, j'espère et je pense avoir réussi à faire quelque chose de bien et d'avoir donné le maximum de choses. Donc voilà, c'était ça le truc, c'est qu'on fait comme on peut.
Exactement. Merci maman.
Merci Émilie, à toi. Écoute, j'ai passé un très bon moment et c'était très agréable finalement.
Non, c'est sûr. Et après, je pense que c'est bien aussi, un conseil peut-être que je partagerai aux gens, d'enregistrer des conversations comme ça avec ses parents, parce que c'est quand même... riche de pouvoir ensuite réécouter.
Exactement, d'avoir, oui, tout à fait. Parce que c'est des choses qu'on ne pourra pas forcément, voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de moyens modernes maintenant qui permettent justement de garder des souvenirs qu'on n'a pas, bon, qu'autrefois on n'avait pas. Bon, merci Émilie.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter, ma mère et moi, et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite.